Bonsoir à tout le monde. Alors allez-y rapidement avec moi, nous lisons deux portions des Écritures. Hébreux au chapitre 11, nous lisons les versets 8, 9 et 10. Hébreux chapitre 11, 8, 9 et 10. Et puis nous ajoutons les versets 23 ainsi que les versets 27. Et à ces premiers passages, nous allons ajouter Marc dans son chapitre 10e. Et là, nous lirons les récits qui va du verset 46 jusqu'au verset 53. Alors, j'ai fait la première lecture, Hébreux 11, 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas lors du roi. Même le verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et le verset 27, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Marc au chapitre 10, verset 46, au verset 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs les réprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. J'aimerais en quelques minutes, avant que nous puissions nous replonger encore dans la prière, parler sur deux choses à faire pour vivre une vie sans regret. Deux choses à faire pour vivre une vie sans regret. Avant d'aller plus loin, j'aimerais mentionner quatre principes qui me semblent fondamentaux pour la suite de ces messages, de cet enseignement. Le tout premier principe, c'est que je crois au destin ou à la destinée. C'est-à-dire à des choses prévues d'avance par Dieu. Je ne crois pas à l'accident, je ne crois pas au hasard. Psaume 139, verset 16, les psalmistes déclarent « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Mais ils sont déjà mentionnés. Quand Dieu appelle Jérémie le prophète, il a plus de 30 ans. Dieu lui dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » La connaissance que j'ai de toi a précédé l'existence. Et même avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations, établi avant l'existence, préparé déjà à être quelqu'un avant qu'il n'existe. Dans Galates chapitre 1, verset 15, l'apôtre Paul parlant de lui-même, il parle de celui qu'il avait mis à part dès les seins de sa mère. Je crois au destin. Je crois en la destinée. Deuxième principe, je ne crois pas plutôt à l'irrévocabilité du destin ou de la destinée. Autant je crois que Dieu prévoit des choses, mais autant que je crois que ces choses ne s'accomplissent pas coûte que coûte, ou quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, on peut vivre soit totalement ce que Dieu a prévu, soit partiellement, ou même ne rien vivre. Dans 1 Samuel chapitre 13, verset 13 à 14, étonnant, Saül a mal agi. Et Dieu envoie son serviteur pour lui dire ces paroles. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Écoutez la suite. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voilà les rêves que j'avais. Voilà la pensée que j'avais. Et il dit au verset 14, et maintenant, ton règne ne durera point. J'avais un plan que ce règne soit plus consistant, qu'il soit plus long, plus durable. C'est ce que j'avais. Mais à cause de ta manière d'agir, ce règne est écourté. 1 Samuel 23, verset 17. Certains prétendent que c'est simplement un souhait qui sortait de la bouche de Jonathan. Mais la plupart des commentateurs disent qu'au-delà du souhait, c'était un réma qu'il avait de la part de Dieu. Quand il va encourager David dans la forêt, la Bible lui dit, tu régneras sur Israël et moi je serai ton second. Il en parlait parce que c'est une pensée qu'il avait reçue de la part de Dieu. Mais il n'est jamais devenu un second parce qu'il est mort à côté de celui de qui il a eu difficile à vouloir se séparer. Il savait de quel côté se trouvait Dieu. Il savait que Dieu avait choisi David, mais il a eu difficile à quitter Saül et à s'attacher à David. Je crois en la destinée, mais je ne crois pas que la destinée est irrévocable. C'est qu'elle finira coûte que coûte par se passer, quoi que je vive. Troisième principe, je crois que pour qu'une destinée puisse s'accomplir, il y aura toujours deux acteurs principaux. D'un côté l'homme et de l'autre côté Dieu. Et laissez-moi vous dire, Dieu fera toujours sa part. Mais sa part ne s'accomplira que si j'accomplis aussi ma part. J'aimerais aller plus loin pour répéter une parole que mon pasteur, le feu pasteur Vernon, disait le plus souvent. Il dit, Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Il fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Mais ce que nous devons faire, c'est à nous de le faire. Et dans la mesure où nous faisons notre petite part, nous jouons notre part de la partition, que lui, il fait le reste. Dans Josué chapitre 1er, versets 5 à 6, Dieu fait des promesses à ce jeune homme qui remplace ces géants. Et il distingue deux parts. Il dit, un, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est ma part. Mais la part de Josué, il dit, toi, fortifie-toi. Bizarre, il ne dit même pas, je vais te fortifier. Il dit, fortifie-toi. Aie bon courage. La présence qui garantit la victoire, moi je serai là. Je ne veux pas t'abandonner, mais c'est à toi d'être fort sur le terrain. J'ai toujours été étonné en lisant ce passage de Jérémie chapitre 18, versets 9 à 10. Écoutez ce que Jéhovah déclare. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir ce royaume et de planter ce royaume, c'est-à-dire de les rendre grands. Je déclare de bonnes choses sur ces royaumes. Mais écoutez la suite. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dieu dit, j'ai prononcé des paroles. J'ai dit, je veux bâtir. Mais cela dépend de comment il va réagir. S'il vit d'une autre manière, il me jugera infidèle. Quatrième principe. Une destinée réussie ou gâchée entraîne toujours des conséquences inévitables, regrets, complexes et tristesse pour celle ou celui qui échoue. Mais une destinée qui réussit entraîne aussi des conséquences joie, bonheur et bien-être. J'ai à peine quelques années. Et j'ai vu des gens avoir des rêves et des ambitions. J'ai vu certains passer à côté, totalement à côté. Mais j'ai vu d'autres aussi saisir les bons bouts. Genèse chapitre 47 au verset 9. Ainsi que 2 Timothée chapitre 4 au verset 6 ainsi que 8. Nous parlons de deux personnes qui ont deux discours et deux langages différents. Selon que l'un a réussi sa destinée et l'autre a échoué. Jacob se retrouve devant Pharaon. Écoutez la manière dont il résume sa vie. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux, mais surtout il dit mauvais, sans saveur. Jacob, qu'est-ce qui s'est passé que tu puisses dire ta vie n'a pas été aussi bonne? Plein de mauvais choix, plein de mauvaises options qui lui ont fait perdre du temps. Mais en même temps que lui regrette ses années, l'apôtre Paul, au soir de sa vie, plaçant comme un rétroviseur, il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il va plus loin, il dira, même une couronne de justice m'est réservée. J'aimerais mourir de cette manière. Joyeux, sans regret, presque en souriant. Et même on doit essayer de fermer la bouche du cadavre pour que le sourire ne puisse pas aller jusqu'à la tombe. Belle manière de mourir. 1 Chronique chapitre 29 au verset 28, ainsi que 2 Chroniques 26 au verset 21, nous présentent aussi deux autres personnes qui finissent leur cours sur terre différemment. De David, 1 Chronique 29, 28 dit, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours. Heureuse vieillesse, il est en train de mourir, il dit, waouh, qu'est-ce que ça a été merveilleux la vie. Qu'est-ce que c'était bon. La Bible dit rassasié des jours. Le terme rassasié des jours, c'est un terme qui veut dire, c'est comme si on a pris une orange et on a pressé et tout est sorti. Les économistes parlent d'utilité marginale, tout est parti. Il a tiré tous les jus que la vie avait. Mais l'autre, Ozias, l'avait dit, le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa vie. Il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, fut placé à la tête. Les commentateurs juifs disent qu'au moins à quatre reprises, Ozias a voulu se suicider. Lui qui était sur une pente ascendante. Et le voilà qui mal agit, la lèpre les frappe. Sans transition, il quitte la royauté, il est dans une petite case. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est indispensable dans les choses de Dieu. Dieu peut t'enlever, te faire remplacer. Et le voilà qui est dans cette petite case, il croit rêver. Il a des remords. L'une des phrases les plus tristes à prononcer quand on avance sur le chemin de la vie, c'est « si j'avais su, si j'avais su ». Il est plein de remords, plein de regrets. Alors qu'il est reclus, la vie continue. Certains ont dit même, ce n'est pas la lèpre qui l'a tué, c'est la tristesse. Et parmi les choses à faire, pour éviter une vie sans regret, la première parmi les deux que Dieu m'a mis à cœur, c'est savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Si vous voulez vivre une vie sans regret, il faut savoir prendre non seulement les bonnes décisions, mais savoir les prendre au bon moment. Et déjà à ce niveau, j'aimerais dire une vérité importante. C'est que seul le temps finit par nous révéler le vrai contenu d'une décision. Les bonnes ou les mauvaises décisions ne sont pas connues au moment où on les prend. Les bonnes ou les mauvaises décisions sont connues avec le temps. Ce n'est qu'avec le temps qu'on sait voir les contenus qu'il y avait dans une option qu'on a levée. On ne le sait pas toujours avec exactitude au moment de la prise des décisions. Est-elle bonne, est-elle mauvaise? Les bonnes décisions nous mènent vers les hauts. Les bonnes décisions nous enrichissent. Les bonnes décisions nous épanouissent. Les mauvaises, par contre, nous appauvrissent. Elles nous font passer à côté de l'essentiel. Elles sont à la base des frustrations et des regrets. J'ai souvent, en tant que pasteur, entendu cette fois des hommes et des femmes, des jeunes gens, filles et garçons, si la vie était à refaire. Si j'avais su, une femme 25 ans de mariage, frustrée du pasteur, j'ai perdu mes 25 ans. Ah pasteur, si la vie était à refaire, si la vie pouvait être une cassette VHS en Mary Wand, et qu'on retourne à l'université, quand ce garçon m'avait demandé la main, j'aurais dit non. Et j'aurais dit oui à Jacques que j'ai raté. Hébreux 11, 8, 24 et 27 que nous avons lus. On parle de deux personnes qui ont eu à prendre des décisions ô combien importantes. À des moments difficiles, mais qui ne les ont jamais regrettés. Abraham est dans son territoire de Ur en Chaldée. Nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé. A-t-il reçu une vision et est-ce une parole audible? Quitte ton territoire d'Ur en Chaldée et va vers le pays que je te montrerai. Waouh! L'avait dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Abraham sort, où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu m'a dit de ne plus rester ici. Abraham, toi tu as étudié, un peu de bon sens. Mais il a su que c'était le temps pour lui de quitter. quitter. Seigneur, aide-moi à prendre des bonnes décisions. Et il n'a jamais regretté cette décision en fait de lui, de celui que les théologiens appellent le père de la foi. Il ne serait pas parti, il resterait un célèbre inconnu. Mais j'aime encore le verset 24. Il est prince d'Égypte. Sur le plan humain, rien ne lui manque. Mais la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais tout montre qu'il s'est identifié à son peuple. Il avait tout. L'Égypte était l'une des sommités de l'époque en termes de connaissances, en termes d'éclat. Mais son cœur lui a dit, ton temps ici est fini. Il a enlevé ses habits royaux et remarquez même, pour un temps, il est devenu un berger. Mais il savait que son temps était fini. Qu'il y a des gens qui ne savent pas prendre des décisions ou qui aiment qu'on prenne les décisions à leur place. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et cette décision a fait de lui l'un des hommes les plus importants dans l'histoire d'Israël. J'aimerais mourir sans regret. Le verset 27 va plus loin. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être frais de la colère du roi. Il savait que sa décision n'allait pas plaire à tout le monde. Vous savez, il y a des décisions pour lesquelles vous n'avez pas besoin de consulter les gens. Qu'est-ce que vous pensez? Car il se montra ferme. Dites avec moi, ferme. Il se montra ferme comme celui qui voyait l'invisible. Et en rapport avec les décisions, j'aimerais faire mention de ces 6 bases que j'aimerais que vous et moi nous puissions retenir. La première base en termes de décisions, c'est qu'il y a 2 extrêmes à éviter. Un, la précipitation. De l'autre côté aussi, prendre trop de temps avant de se décider. Ce sont les 2 extrêmes à éviter. La précipitation, y aller rapidement. Mais l'autre extrême aussi à éviter, prendre trop de temps. Certaines décisions, plus tu perds du temps, plus tu rates. J'ai jamais oublié un jour de 94. J'étais allé visiter quelqu'un chez nous à Kinshasa, aux cliniques appelées Ngaliema. Quand j'ai entendu ce qui était proposé à cet homme, c'est un peu égoïste de ma part, mais j'étais content d'être moi et de ne pas être lui. J'ai vu le médecin sortir, dire à ces messieurs, nous vous donnons 5 minutes parce qu'on ne peut pas sauver et madame et l'enfant. Décide qui on doit sauver. Soit on sauve madame, soit on sauve l'enfant. Et plus tard, j'apprendrai que ça faisait 12 ans. Ils attendaient un enfant, ils n'avaient pas. Et là, il y avait un problème. C'est pour ça que j'ai dit, j'étais content d'être moi et de ne pas être lui. Pas de temps à perdre. Vous perdez le temps, vous perdez les 2. Mais le plus tôt vous réagissez, vous au moins sauvez l'une des personnes. Évitez les 2 extrêmes. Précipitation. Qu'il y ait des gens qui se précipitent pour prendre des décisions. 1 Timothée chapitre 5 au verset 22, Paul dit à son fils dans la foi, n'impose pas les mains avec précipitation aux gens. J'ai appris ça dans les ministères. Il est plus difficile de retirer des responsabilités à quelqu'un qu'on les lui a accordées déjà. Mieux vaut l'observer, on l'observe, finalement on trouve qu'il est digne, on impose les mots, on dit vas-y. Que de confier des responsabilités à quelqu'un, et puis après on se rend compte qu'il n'était pas digne, les lui retirer, ça devient un problème. Proverbe 21, verset 5 dit, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est pourquoi je ne crois pas au coup de foudre. Quelqu'un a dit, l'amour est aveugle, mais c'est le mariage qui lui rend la vue. Il n'y a pas meilleur élément de guérir que le mariage. Mais l'autre extrême aussi à éviter, c'est prendre trop de temps. Que des gens qui, pour une petite décision, trop de temps. Juges chapitre 5 au verset 16 nous parle de cet épisode dans la vie d'Israël. Les ennemis sont à la porte, Juges chapitre 5 verset 16. Les ennemis sont à la porte du pays. Et cette vaillante dame appelée Déborah s'est levée comme juge. Elle envoie un message à chacune des tribus. Faites vite. Venez faire front tout autour de moi afin que nous puissions relever les défis.